Europe Midi, Romain Desarbres.
Il est midi et demi, pile, bienvenue à tous, merci d'être avec nous, merci de nous retrouver, Europe Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. À la une, les supporters de foot, ils sont de plus en plus violents, il y a des dérapages regrettables lors de chaque journée. Le récit de la soirée d'hier avec Cédric Chasseur et puis les propositions du député Sacha Houlier qui a travaillé sur la violence dans le foot, il sera en direct avec nous. Éric Zemmour va-t-il participer au processus de sélection du candidat de la droite? Vous avez bien entendu, on n'en est pas là, mais ses partisans cherchent à l'inscrire. Nos informations avec Alexandre Chauveau. Une conductrice qui avait inhalé du gaz hilarant a renversé 4 personnes, dont 3 sont gravement blessées. Faut-il classer le gaz hilarant dans la catégorie des stupéfiants? Ce dramatique accident de la route s'est déroulé sur les Champs-Élysées mardi soir. Cette proposition de classer le gaz hilarant dans la catégorie des drogues, c'est ce que propose la maire du 8e arrondissement. Où se trouvent les Champs-Élysées, elle sera en direct avec nous. 3 familles pourrissent la vie des habitants d'une cité HLM de Gonesse. C'est dans le Val d'Oise, dans le nord-ouest de Paris. Le gestionnaire des logements demande leur expulsion. La directrice générale de cet office HLM sera avec nous. Et puis, de nouveaux tarifs pour les trains intercités. Des tarifs Ouigo, comme pour les TGV. Est-ce que ce sera si intéressant que ça en termes de tarifs? Je poserai la question à Aurélien Fleureau, qui était avec la SNCF ce matin. C'est un phénomène qui touche actuellement le foot français et qu'on n'arrive pas encore à régler. Un phénomène qui s'est accentué depuis le retour des supporters dans les stades. Violence, jet de projectiles, envahissement de terrain. Cédric Chasseur est avec nous. Bonjour Cédric.
Bonjour.
Service des sports d'Europe 1 évidemment. Rien qu'hier soir pour la 7e journée de Ligue 1, il y a eu 3 incidents.
Oui, cela a commencé en fin d'après-midi sur la route du stade de la Mosson à Montpellier. Un quart de supporters bordelais a été la cible de projectiles, bus caillassé, bilan 16 blessés, dont 6 hospitalisés. Il y a eu ensuite des débordements au stade Saint-Symphorien lors du match Metz-PSG, une rencontre houleuse sur le terrain qui s'est soldée par l'arrivée sur la pelouse après le coup de sifflet final de plusieurs dizaines de supporters messins. Enfin, et c'est le dossier le plus lourd, l'affrontement entre supporters d'Angers et de Marseille au stade Raymond Coppa, là encore juste après la fin de la rencontre. On ne sait pas qui a commencé, il y a eu des jets de projectiles des deux côtés, une bagarre a éclaté sur la pelouse, les stadiers ont été complètement débordés et il a fallu l'intervention des CRS pour séparer les fans angevins et marseillais. La Ligue va étudier de près ce dossier dès ce soir. La commission de discipline va se réunir exceptionnellement et comme pour Lens-Lille, des mesures conservatoires pourraient être prises avant peut-être une mise en instruction.
Merci beaucoup Cédric. Bonjour Sacha Houlier.
Bonjour.
Vous êtes député La République En Marche, vous avez travaillé sur le monde des supporters, sur les violences également dans le sport et dans le football. Qu'est-ce qui se passe depuis la rentrée, selon vous? Quelle mouche a piqué les supporters de foot?
Bah, vous savez, les supporters de foot ne sont pas vraiment différents de tous les citoyens français. Et on constate dans la société française une recrudescence de formes de violence, en tout cas des actes commis qui sont de plus en plus violents. Et les stades étant le miroir de la société, on constate aussi dans les stades ce type d'incident qu'on a à déplorer.
On n'est pas assez sévère. Comment est-ce qu'on pourrait régler le problème, vous qui avez travaillé sur le sujet?
En fait, on dispose de tous les moyens juridiques aujourd'hui pour conduire les supporters devant les tribunaux, enfin ceux qui commettent en tout cas des actes pareils devant les tribunaux. D'abord des mesures individuelles qui concernent le supporter de Nice OM et qui, pour lequel le procureur a requis 6 mois de prison ferme et 5 ans d'interdiction judiciaire de stade. Et donc, pour tous les comportements qui sont identiques, eh bien, c'est ce type de sanctions qui doivent être adoptées. C'est 1 mois entre le déroulé de la rencontre et puis la sanction qui va être prononcée, donc c'est assez rapide. Ensuite, la commission de discipline de la Ligue dont vous avez parlé, il faut rappeler qu'elle est indépendante, qu'elle a fait un effort pédagogique sur l'explication de la décision qu'elle a prise sur le match Nice-OM, mais elle doit faire dorénavant un effort sur la nature des sanctions qui sont prises, et notamment dire quand est-ce qu'un match doit être arrêté, ne pas reprendre, et donner pour gagnant à l'une ou l'autre des équipes, voire à neutraliser s'il y a besoin. Et puis enfin les clubs. Et vous avez mentionné le fait qu'il y a eu une insuffisance du nombre de personnes, en tout cas de stadiers qui étaient présents lors du match hier soir Angers-Marseille. C'est déjà un risque qu'on avait vu à Nice-OM. C'est aussi des équipements manquants. Je pense aux filets de protection qui manquaient à Nice-OM, je pense au fait de mettre les supporters lillois à côté des supporters lensois sans zone tampon pour le match de Lens. Et ça, c'est plein d'incidents qui sont de la responsabilité des clubs. Lorsque, en amont des matchs, il y a des réunions de préparation, eh bien, on doit tenir compte des remarques, sinon on arrive à la commission d'infraction qui, malheureusement, n'était pas irrésistible, mais qui était quand même assez prévisible.
Assez prévisible. Est-ce que la Ligue est trop laxiste dans ses sanctions ?
Les sanctions, en tout cas, qui ont été prononcées pour Nice OM, elles n'ont pas été comprises. Et pour le coup, il y a eu une vraie volonté d'être pédagogique. Sébastien Deneux, qui est le président de la commission de discipline, a essayé de les expliquer pour faire un précédent. Moi, j'avais été de ceux qui disaient que le match ne devait pas être rejoué, que le sort du match devait être d'ores et déjà décidé. Et je pense que c'est ce qu'il faudra faire pour certains de ces matchs-là, pour qu'on puisse bien comprendre que lorsque sont commis des actes d'une telle violence et d'une telle gravité, eh bien, on ne peut pas laisser faire et que, pour le coup, c'est un motif très justifiable pour pouvoir arrêter un match et ne pas le donner à rejouer.
Merci beaucoup, monsieur le député. Sacha Houlier, député La République En Marche, en direct dans Europe Midi. Merci beaucoup. C'est samedi que les Républicains vont voter pour déterminer le mode de sélection de leurs candidats. On se dirige vers la solution d'un congrès où ne voteraient que les militants. Alexandre Chauveau, ce que vous nous dites dans Europe Midi, c'est que les partisans d'Éric Zemmour tentent de faire participer leur probable futur candidat à ce congrès. Mais Alexandre, est-ce qu'Éric Zemmour peut vraiment participer à cette primaire ?
Eh bien, sur le papier, a priori, peu de choses l'en empêchent. Il faut dire qu'Éric Zemmour ne jure que par le général de Gaulle et revendique se retrouver dans le programme du RPR des années 90, qui tenait alors un discours fort sur l'immigration. Discours toujours très populaire dans l'électorat des Républicains. Sur la forme, les choses semblent un peu plus compliquées. Gérard Larcher et Christian Jacob, deux ténors du parti, ont marqué leur opposition à une telle démarche en mettant en avant les différences de valeurs entre Éric Zemmour et les Républicains. Pour autant, l'essayiste, on l'a dit, séduit les électeurs de droite. Il n'a certes pas sa carte du parti, mais Xavier Bertrand et Valérie Pécresse non plus, et réunir les 250 parrainages d'élus nécessaires pour participer ne devrait pas être insurmontable. Reste que cela serait une vraie surprise pour beaucoup, car Éric Zemmour a toujours vanté la tradition de la 5e République et la rencontre entre un homme et le peuple. Mais l'essayiste a pris l'habitude de jouer les troubles faits et l'absence de vrais leaders à droite pourrait favoriser sa démarche. Le trublion Zemmour n'aura jamais aussi bien porté son nom.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Merci Alexandre. 4 blessés, dont 3 graves. Une conductrice et sa passagère sont en garde à vue après l'accident de mardi soir sur les Champs-Élysées. La conductrice avait inhalé du gaz hilarant, en réalité du protoxyde d'azote. Bonjour Jeanne Dautzer.
Bonjour.
Vous êtes maire du 8e arrondissement de la capitale où se trouvent les Champs-Élysées. Vous réclamez que le gaz hilarant soit désormais considéré comme de la drogue ?
Mais écoutez, c'est évident, la consommation du protoxyde d'azote, qui est aussi surnommé gaz hilarant ou proto, présente des conséquences sur le comportement des utilisateurs. L'utilisation de ce produit inhalé provoque des réactions euphorisantes, notamment des rires incontrôlés, une sensation d'ébriété, enfin des distorsions auditives et visuelles. Et cette conductrice, malheureusement, ce mardi soir, donc, a consommé ce produit et elle s'était trompée donc, de pédale. Elle était à l'arrêt au feu rouge, elle a appuyé sur l'accélérateur et le véhicule a percuté les piétons qui étaient au milieu de l'avenue. Voilà, donc moi je demande à ce que les législateurs se penchent sérieusement sur ce sujet et proposent d'inclure dans le code de la route l'interdiction de consommer le protoxyde d'azote au même titre que l'alcool et les stupéfiants.
Faudrait en interdire la vente, j'allais dire, ailleurs que dans les magasins d'alimentation parce que ce gaz sert notamment à faire de la chantilly.
Absolument, mais vous savez, il y a une loi qui a été votée au mois de juin et le préfet de police avait donc au mois de juillet fait faire une opération donc, de contrôle sur l'avenue des Champs-Élysées. Comme vous le savez, l'avenue, les trottoirs sont larges. On a eu des bandes qui arrivaient donc, par cinquantaine, par centaine sur les trottinettes en ayant inhalé donc, ce protoxyde d'azote. Donc on a pu faire des contrôles, mais on ne peut pas chaque soir ou chaque week-end mettre des brigades pour juste contrôler cette consommation. Voilà, donc il va falloir un moment que nos législateurs fassent le job, c'est-à-dire protéger la population et notamment sur ce phénomène qui ne fait qu'empirer.
Parce que ça touche également des jeunes dans les collèges et les lycées de votre arrondissement et de toutes les villes de France. Hein.
Ben, y en a partout. On s'est aperçu donc depuis ces deux dernières années que la jeune génération consomme, mais il y a aussi malheureusement les conducteurs. Enfin voilà, ce qui s'est passé sur les Champs-Élysées, il faut alerter et ne pas attendre qu'il y ait d'autres drames.
C'est dramatique. Merci beaucoup, Madame le maire. Jeanne d'Auxerre, maire du 8e arrondissement de la capitale. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe Midi. Il est 12h40. Restez bien avec nous. Dans un instant, je vais vous parler d'une histoire qui se passe à Gonesse, dans le Val d'Oise. Les responsables d'un organisme HLM demandent à la justice de l'autoriser à expulser trois familles qui créent de gros problèmes. On sera avec la directrice générale de cet organisme HLM. A tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
12h43, je voulais vous en parler dans Europe Midi. Donc, le gestionnaire d'une résidence HLM à Gonesse dans le Val d'Oise demande à la justice d'expulser trois familles qui créent de gros problèmes. On est avec Michel Attard, directrice générale de l'organisme HLM Toit et Joie. Bonjour Michel Attard.
Bonjour.
Comment se comportent ces familles pour que vous demandiez leur expulsion ?
Alors, je crois qu'il faut parler d'adolescents et de jeunes adultes délinquants, puisqu'on a eu quand même un certain nombre de faits répertoriés, 64 voitures dépouillées ou brûlées, une agression de gardien, etc., etc., et un certain nombre de familles qui sont dans le déni. Oh, non, mes enfants se sont assagis, tout va bien, etc., etc. Ce que je voulais vous dire, c'est que ce n'est pas parce que nous menons une procédure judiciaire jusqu'à son terme que nous expulsons. Une fois qu'on a un accord du juge pour une expulsion, on a encore tout le délai qui nous permet de revenir sur la décision si les familles nous proposent des solutions durables. En l'occurrence, pour au moins deux familles, là, on s'aperçoit que les choses se sont stabilisées, que les difficultés sont moindres. Et au moins une des familles a demandé à quitter la résidence, peut-être pour des raisons salutaires, éloigner ses enfants d'un réseau qui n'est pas forcément très sain pour eux. Voilà, donc on est obligé, compte tenu de l'existence de tous ces faits de délinquance, de mener les actions jusqu'à leur terme, tout en se donnant les moyens...
les moyens d'essayer de rattraper la situation.
Mais rattraper la situation, parce qu'une expulsion, d'abord, c'est rare chez nous, et puis c'est un échec. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi. Mais on est toujours obligé de faire un arbitrage entre deux ou trois familles qui en perturbent 250 autres.
Que j'allais vous dire, parce que effectivement vous menez ces opérations en prenant en compte les problèmes de ces familles, mais il y a toutes les victimes autour. 64
Exactement.
Voitures dépouillées ou brûlées, un gardien agressé. Ça veut dire que tous les voisins vous demandaient d'expulser ces familles, ils en pouvaient plus.
Les voisins, ils ne demandent pas d'expulsion parce que les voisins ne préjugent pas de la solution. Les voisins, ils nous demandent une jouissance paisible. Les voisins, ce sont des gens modestes qui utilisent leur voiture pour aller travailler. Quand ils n'ont plus de voiture ou qu'elle a été dépouillée, sont eux-mêmes en situation de victime. Et les voisins nous demandent de résoudre le problème. Donc, nous, on le fait avec les moyens dont on dispose, tout en essayant d'éviter qu'une famille entière se retrouve à la rue parce que un adolescent dysfonctionne. Mais quand les parents sont dans le déni, on a un peu moins de points d'appui pour trouver une solution.
Là, dans ce cas précis, ce sont des familles qui n'ont pas entendu vos appels, quoi. Hein.
Qui n'ont pas entendu ni les nôtres, ni celui du maire.
Ni
les
vôtres.
On travaille en partenariat avec les mairies. Les gens sont sensibles au fait d'être reçus par un édile. Voilà, donc dans la mesure où rien ne s'arrangeait, on a engagé une procédure d'expulsion. On a engagé une procédure d'expulsion, ce qui ne signifie pas qu'on ira nécessairement au bout si les familles prennent conscience des difficultés que génère la situation pour leurs voisins, qui ont peur, pour nos gardiens, qui ont peur, et qu'on peut trouver ensuite une solution.
Merci beaucoup, Michel Attard. Merci d'avoir été avec nous dans Europe Midi aujourd'hui.
Europe Midi. Midi 30, 13h, Romain Desarbres.
12h47, c'est un phénomène qui est longtemps passé sous les radars de la société, la prostitution des mineurs en France. Une série sera d'ailleurs diffusée ce soir sur TF1. Et le gouvernement veut s'attaquer au problème. Ça touche 6 à 7 000 jeunes, c'est en augmentation constante depuis 5 ans. Ça touche tous les milieux sociaux. Pas dans les mêmes proportions, il faut le dire. Virginie Riva, bonjour.
Bonjour.
Vous avez enquêté pour Europe 1. Comment ce phénomène a pris tant d'ampleur ?
Alors, Il a toujours existé, mais c'est vrai que les réseaux sociaux ont démultiplié ces possibilités de recrutement, de prise de rendez-vous via les messageries Snapchat ou Instagram, par exemple. Les proxénètes sont souvent très jeunes, parfois c'est le petit copain, avec des phénomènes d'emprise, notamment chez les jeunes filles en difficulté affective, comme celle recueillie à Lille auprès de l'association Solfa. Julie, 17 ans, a un parcours de vie compliqué, ballotté de foyer en famille. Elle raconte sa première fois.
Et en fait, quand je me suis retrouvée à faire l'acte, en fait... J'étais dégoûtée, j'avais les yeux qui pleuraient, j'étais vraiment pas à l'aise. Le client a dû le remarquer, mais lui s'en fichait en fait. C'est bête, hein. C'était pour une fellation, mais je savais même pas quand je devais m'arrêter. Je pensais que c'était 5 minutes et puis basta. Ben, je savais pas quoi dire. Je savais pas ce qu'il fallait dire, je savais même pas le tarif que je devais évoquer.
Qui sont les clients, Virginie ?
Alors, c'est toute la difficulté. Hein. Difficile de les intercepter aujourd'hui, car la prostitution n'est plus forcément dans la rue. Elle a lieu dans des Airbnb, dans des soirées. À Lille, dans l'association où je me suis rendue, les jeunes filles sont reçues en semi-autonomie. Hein. C'est-à-dire qu'elles peuvent continuer leurs activités et en parallèle tenter de se reconstruire. Elles parlent aussi librement de ces activités à leur psychologue Cécile Carissimo.
Elles expliquent que plus elles sont jeunes, plus les tarifs sont élevés. Mais au niveau des clients, il y a un seuil à pas dépasser. 15 ans, ça passe. En dessous de 15 ans, elles ne le disent pas forcément.
Alors 15 ans, je rappelle que c'est l'âge supposé du consentement sexuel depuis 2021, mais la prostitution des mineurs n'est évidemment pas autorisée. Tout le problème, c'est le cercle vicieux de l'argent surtout, et c'est même rapporté par les filles elles-mêmes, Julie et Jessie, 12 ans.
Quand on travaille, c'est 1200 euros par mois. Ouais. Nous, on est là. On se fait 200 euros par jour, on se fait 10 000 euros par mois.
Alors, c'est pas de l'argent, je dirais pas que c'est de l'argent facile, mais c'est de l'argent rapide.
Voilà, de l'argent qui sert dans leur cas à acheter toutes sortes de drogues. Dans d'autres milieux, ça peut être pour un sac, une paire de chaussures. Le secrétaire d'État en charge de l'enfance va lancer mi-octobre un plan sur le sujet.
Ce n'est pas de l'argent facile, c'est de l'argent rapide, disait la jeune fille que vous avez interrogée et dont on a évidemment modifié la voix, vous l'avez compris, pour conserver son anonymat. Merci beaucoup Virginie. 12h49, restez bien avec nous dans Europe Midi. Dans un instant, je vous parle des tarifs Ouigo. On les connaît pour les TGV. Mais ils vont s'appliquer désormais aux trains intercités. Est-ce que c'est si intéressant que cela ? Je poserai la question à Aurélien Fleureau qui a toutes les informations. A tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
12h52, vous prenez certainement le train. Il y a du changement dans les tarifs des trains. Les tarifs Ouigo qu'on connaît pour les TGV vont s'appliquer aux intercités qui s'appelleront désormais Ouigo. Les trains seront roses. Aurélien Fleureau, vous étiez avec la SNCF ce matin. Ça va être vraiment intéressant.
Alors ce qui est certain, c'est qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise sur les prix. Que vous réserviez un mois à l'avance ou la veille, vous paierez la même chose, soit entre 10 et 30 euros maximum selon le trajet. Cette offre labellisée Ouigo Vitesse Classique va arriver au printemps prochain et proposera 14 destinations. Surtout, elle desservira de nouvelles gares, donc il y aura plus d'arrêts. Un Paris-Nantes prendra 4 heures contre 2 heures en TGV, mais l'idée de la SNCF avec cette offre, c'est de concurrencer les cars longues distances et surtout la voiture, comme l'explique Alain Krakowicz, le directeur général de Voyage SNCF.
On a aujourd'hui 700 000 personnes qui prennent les autoroutes tous les jours. C'est pour ça qu'on a ciblé Paris-Lyon et Paris-Nantes, parce que ce sont les deux marchés principaux. On souhaite pouvoir leur proposer une alternative écologique, le train, avec cet aspect très important de petits prix fixes jusqu'au dernier moment.
Et ces trajets se feront dans des rames corail rénovées, des trains intercités qui passeront aux couleurs bleues et roses de Ouigo. La SNCF a par ailleurs annoncé ce matin de futures destinations pour son offre de TGV low cost en direction de Brest, La Rochelle ou Perpignan à partir de l'année prochaine.
Voilà pour les trains. La Commission européenne va proposer aujourd'hui une directive sur les chargeurs de téléphones portables. C'est vrai qu'à chaque téléphone, enfin en tout cas à chaque marque, son chargeur. L'objectif de Bruxelles, c'est qu'il n'y ait plus qu'un seul modèle. Clément Le Saffre, bonjour.
Bonjour.
Vous nous dites que c'est un vieux projet de la Commission qui a jusqu'ici, ce projet a été bloqué par les fabricants et notamment Apple.
Oui, parce qu'il y a quand même eu un peu de progrès. Il y a 10 ans, rendez-vous compte, il y avait 30 chargeurs de téléphones différents sur le marché. Aujourd'hui, Il y en a trois, mais il y en a vraiment deux qui sont très utilisés. Il y a d'un côté le chargeur avec port USB-C. C'est le plus courant. J'en ai un avec moi pour ceux qui nous regardent sur Europe1.fr. Celui-ci, il est compatible avec la quasi-totalité des smartphones qui marchent sous Android. Il permet une recharge rapide et l'avantage, c'est qu'il y a de la concurrence sur les prix puisque n'importe quel fabricant de matériel électronique peut en produire. Mais il y a un réfractaire et pas des moindres. C'est Apple, la firme californienne, a développé sa propre technologie, le port Lightning. J'en ai aussi un avec moi. Hop, il est là. Il est plus petit. Plus plat.
Il est plat, voilà.
Voilà, ouais, exactement. Et ça lui a permis en fait de raboter au maximum la taille de ses iPhones pour les miniaturiser. Mais ce chargeur, il a un désavantage, c'est qu'il n'est compatible qu'avec des produits Apple et seul Apple peut en produire. Résultat, ça embête un peu la Commission européenne qui voudrait maintenant que l'USB-C devienne le standard universel. Le but, c'est de simplifier la vie des consommateurs et de réduire aussi de 10% les 11 000 tonnes de chargeurs jetés chaque année en Europe. C'est une proposition qu'Apple, évidemment, rejette au nom du droit à l'innovation.
Merci beaucoup Clément. Je ne sais pas vous, mais chez moi, on ouvre les tiroirs.
Il y
en a partout. Des chargeurs.
On ne sait même plus à quoi ils servent.
Et on les garde au cas où, évidemment. Mais le cas où, ce produit, jamais. Merci beaucoup Clément.